Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Jacques Thomas, bonjour.
Merci, bonjour madame.
Merci d'être venu nous rejoindre. Troisième semaine d'entretien avec vous. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé 1762, l'affaire Calas, religion et intolérance au siècle des Lumières. Et donc, nous avons parlé de cette époque assez perturbée quand même entre protestants, catholique, il y avait eu l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, il y avait le pouvoir central qui envoyait ses ordres, qui n'étaient pas toujours suivis, si, quand même, peu ou prou.
Non, sans doute, là, le pouvoir du roi avait du mal parfois à atteindre les provinces.
Compte tenu de la distance.
Et le manque de fonctionnaires. Malgré tout, c'était un État avec relativement peu de moyens. Et donc,
c'est l'équivalent de l'heure actuelle. C'est ce qu'on nous dit.
Oui, c'est pas beaucoup.
Alors, arrivons à cette affaire Calas. Qui habite rue des Filatiers dans la maison Calas? Quels sont les membres de cette famille qui vit là?
Alors, la famille Calas habite à Toulouse depuis les années 1730, sans doute. Bien que le couple Calas s'est marié dans la région parisienne aux alentours de 1730. Ils sont venus s'installer à Toulouse. Jean Calas est un marchand de textiles. On dit marchand d'Indienne, il vendait des textiles en coton en particulier.
Ce qui était quand même une habitude dans ce quartier-là.
Oui, hein? Je pense qu'il y a, oui. Il y en avait plusieurs autres et tout. Et donc, il habite là avec son épouse, Anne Rose, qui était protestante, mais née à Londres d'une famille protestante qui avait émigré après la révocation de l'édit de Nantes et qui est venue en France se marier. Ensuite, ils ont eu trois fils, Marc-Antoine qui est l'aîné, Pierre, qui est le second, et ensuite Louis, non, ils sont quatre fils, il y a Louis, et ensuite celui qu'on appelle Donat, D-O-N-A-T, Donat, qui est à ce moment-là, au moment de l'affaire, à Nîmes en apprentissage. Et donc c'est quatre fils sont accompagnés de deux sœurs quand même, Anne et Anne-Rose Calas, plus leur domestique, qui est une catholique, qui s'appelle Viguière. Maintenant, j'oublie son prénom.
Mais elle est catholique et elle travaille quand même chez les protestants.
Oui, et même, il n'est pas impossible qu'elle ait contribué à la conversion du troisième fils Calas, qui s'appelait Louis, qui s'est converti à 18 ans, juste deux ou trois ans avant que l'affaire n'éclate. Il se convertit à catholicisme, il quitte la maison familiale. Il est à Toulouse, en pensionnat. Son père doit lui verser une pension. Et là, cette pension fait l'objet quand même de difficultés, en partie parce que c'est une période économique difficile. On est en plein dans la guerre des Sept Ans. Le commerce français en général et le commerce toulousain est en difficulté. Et Jean Calas a peu de liquidités et donc il a du mal à verser la pension. Et Louis est très revendicatif. Et donc, il va voir tous les notables de la ville, le subdélégué, il écrit à l'intendant, il va voir l'archevêque pour mobiliser ces notables pour faire pression sur son père. Ce qui fait que la famille Calas, qui vivait, je dirais, vraiment de façon très modeste et discrète, s'est retrouvée dans ces quelques années-là
sous le feu des projecteurs,
plus visible, oui. Et je dirais pas toujours très bien appréciée des autorités parce que il y avait des problèmes de paiement de pension.
Oui, mais
il pensait que Jean Calas ne payait pas parce qu'il ne voulait pas aider son fils catholique. Alors que c'est un peu plus compliqué. Voilà.
Alors justement, vous mettez le doigt sur un premier problème. Louis est devenu catholique.
Oui, il a abjuré.
Voilà. Et voilà.
Avec peut-être l'aide de la servante, mais que les calas sont bien gardés chez eux sans la mettre à la porte, etc.
Oui. Ce qui explique aussi qu'il se soit adressé à toutes les personnes importantes de la ville pour obtenir gain de cause. Parce qu'il aurait été protestant, peut-être qu'il n'aurait pas été...
Ah non, mais la question ne se posait pas du tout de la même façon. Son père, à ce moment-là, ne lui devait rien. Alors, on peut penser que ça a eu une conséquence sur la mort de Marc-Antoine, qui
voilà,
est le fils aîné.
Nous y arrivons, oui.
Parce que Marc-Antoine avait fait des études de droit. C'est le seul des fils et des enfants qui ait fait de longues études.
Et d'ailleurs, il a un très bon ami, avocat.
Tout à fait. Et il a le diplôme, je dirais le diplôme, il a le grade d'avocat, mais il ne peut pas devenir avocat parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les protestants étaient interdits de la profession d'avocat. Alors, à Toulouse, il y a bien sûr des avocats qui sont des crypto-protestants.
Il y a des passe-droits.
Non, mais ils sont parce qu'ils sont baptisés catholiques. Ils se sont mariés catholiquement. Ils ont baptisé leurs enfants catholiquement. Donc, ils sont, je dirais, de réputation catholique et ils ont pu devenir avocats. Quand Marc-Antoine va voir son curé à Saint-Étienne pour demander le papier de catholicité, je dirais, le bon citoyen catholique, le curé refuse. Parce qu'il sait que les calas ne sont pas catholiques. Et il sait que Marc-Antoine n'est pas catholique au fond de lui-même. Et donc, il lui refuse ce papier. Et Marc-Antoine se trouve dans une situation qui est un peu comme un sort de cul-de-sac. Il ne peut pas devenir avocat comme il rêvait.
Donc, il ne voit pas, il voit son avenir bouché.
Et avec les difficultés.
Malgré l'exemple de Louis, qui lui a été accepté.
Mais Louis s'est converti.
Il s'est converti, carrément. Oui, d'accord. C'est très différent.
Marc-Antoine, tout le problème que nous allons avoir dans l'histoire, c'est qu'on prétend que Marc-Antoine voulait devenir catholique. Et donc ça, c'est pour cette raison que ses parents l'auraient tué. Ils l'auraient assassiné pour l'empêcher de devenir catholique. Mais ils avaient déjà un fils catholique qui n'ont pas...
Oui, qui n'ont pas tué.
Ils
n'ont pas tué. Et donc, voilà, alors vous mettez l'accent sur la raison probable de son suicide, parce que s'il n'a pas été tué, il s'est suicidé. On l'a retrouvé comment ? On l'a retrouvé pendu.
Alors là, nous ne le saurons jamais.
Oui, parce que crois que la semaine prochaine, excusez-moi, mais je crois que la semaine prochaine, vous allez avoir du travail, parce que l'enquête a été particulièrement bâclée. Particulièrement.
Oui, on en reparlera.
On en reparlera. En tout cas, un grand merci, en tout cas, Jacques Thomas, de cet éclairage, déjà. Donc, est-ce que Marc-Antoine s'est-il suicidé ou a-t-il été tué? C'est la grande question dont vous nous parlerez la semaine prochaine. Merci.
Merci, madame.